êtes à l'écoute de Honte de Femmes sur Radio Zone FM 93,8. Nous sommes en compagnie de André Petitat, sociologue genevois, qui a étudié la situation, l'histoire, la sociologie des infirmières au Québec.
Où maintenant ces infirmières, bon, elles ont passé par, justement, elles ont un peu dépassé cette conception de vocation, de sacrifice. Elles ont négocié un statut,
Dire,
de nouvelles conditions de travail.
Tout le monde était sur le même pied à ce moment-là. Les médecins aussi, très rapidement, ont voulu défendre leur morceau. Et ils ont constitué eux-mêmes des syndicats. Ils en ont constitué deux même, parce qu'ils ne s'entendaient pas entre eux. Un pour spécialistes et un pour généralistes. Et ça se passe déjà dans les années 64-65. Les infirmières ont fait pareil. Elles s'y étaient prises bien des années auparavant, mais leur syndicat était resté rachitique. 200-300 personnes, pas plus, parce que les sœurs veillaient au grain. Elles voulaient bien avoir des infirmières, mais en tout cas pas de syndicalistes. Et les syndicalistes ont réussi à pénétrer peut-être une dizaine d'institutions, pas beaucoup plus. Tandis que, à partir du moment où l'État et les assurances se mettent dans la logique hospitalière, à ce moment-là, les infirmières changent totalement, mais très rapidement, en quelques années, elles changent leur rapport à l'argent et leur rapport à leur travail. La première grève au Québec, c'est en 57, à Hull, dans une petite ville près d'Ottawa. Et puis, certaines grandes conquêtes, notamment la réduction de travail, ont été obtenues à la faveur de grèves ou de menaces de grève. Les 36 heures et quart, pardon, qui sont encore le lot des infirmières actuellement au Québec, ont été obtenues pour la première fois à l'Hôtel Dieu de Montréal sous une menace de grève. Et les sœurs, c'était les sœurs qui dirigeaient l'Hôtel Dieu, ont cédé.
36 heures et quart.
36 heures et quart, oui.
À Genève, je crois que c'est 40 heures.
Il me semble.
Ouais, il me semble.
Donc les.
Elles ont fait des grèves, des longues des grèves.
Ah, parfois de longues grèves. Une des plus longues, c'était à Sainte-Justine. Imaginez un hôpital pour enfants. Un hôpital pour enfants, donc c'était un double sacrilège, finalement, parce que non seulement on abandonnait l'idéologie du don, mais en plus on abandonnait des enfants. Elles ont fait grève, je crois, pendant bien un mois pour obtenir satisfaction.
Et c'était les ensuite, revendications de quelle salariale ?
Les revendications salariales, des revendications sur les conditions générales de travail et des revendications sur le temps de travail. Donc, tous ces aspects-là étaient dans la balance. Ensuite, les choses se sont très rapidement composées au niveau syndical. Trois syndicats se sont dégagés, à peu près de force équivalente, pas tout à fait, certains plus ou moins, peu importe. Ce qui importe de considérer, c'est que la logique d'intervention de l'État a favorisé une unification de ces syndicats. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le Québec vit à l'heure américaine, ou dans une conception américaine de la lutte syndicale. Les travailleurs et travailleuses de là-bas ont peu de relais politiques. Il n'y a pas de parti socialiste fort ou de parti qui peuvent réclamer des travailleurs. Donc ils doivent compter sur une organisation qui est essentiellement l'organisation syndicale, plus l'organisation, on peut dire, corporative aussi. Parce que l'organisation corporative a défendu pendant un certain temps et a même négocié certaines conventions collectives. Ensuite, elle a laissé la place au syndicat et il y a une division du travail qui s'est faite entre la corporation qui donne la licence de pratiquer, qui fait passer des examens pour accorder cette licence, qui tient une commission de discipline, et donc qui juge les écarts à la déontologie professionnelle, donc qui veille, si tu veux, au bon déroulement de la profession et des activités professionnelles. Et puis, d'un autre côté, le syndicat qui, lui, travaille essentiellement sur le temps de travail et les conditions salariales.
Mais je ne sais pas comment ça se passe au Québec, mais disons, en Europe, ces dernières années, les infirmières ont aussi fait des grèves, fait des luttes, parce qu'en France, en Grande-Bretagne, en Suisse, il y a un mécontentement. Et puis on parle beaucoup de revaloriser la profession, En France, ce qui est ressorti des grèves qu'il y a eu, c'était vraiment, on n'est pas reconnu. Notre travail, notre compétence, nos responsabilités ne sont pas reconnues. Alors, est-ce que c'est la même chose au Québec? Est-ce qu'il y a aussi une crise? Comment elle apparaît ici en Europe? C'est-à-dire, c'est pas reconnu, c'est pas assez bien payé, il y a surcharge de travail. Et puis en filigrane, il y a toujours ce conflit avec le corps médical sur les compétences, ce qu'elles font de fait et ce qui n'est pas reconnu dans le salaire, ce que le corps médical leur délègue comme fonction. Ouais, ouais.
Quoi qu'on fasse, quand on parle ici aux infirmières françaises et parfois aux infirmières suisses des conditions organisationnelles, salariales, d'horaires des infirmières québécoises, mais elles nous demandent pourquoi elles ne sont pas contentes encore.
Donc, la situation est meilleure au Québec.
Je ne sais pas si la situation est meilleure. La situation est toujours relative, je dirais. Les infirmières québécoises ne se comparent pas aux infirmières françaises ou aux infirmières belges. Elles se comparent aux autres professions qui sont maintenant accessibles aux femmes, dont les professions de la gestion qui sont maintenant envahies par les femmes, et d'autres professions beaucoup plus traditionnellement féminines, par exemple comme institutrice. L'institutrice a beaucoup plus de vacances, elle a souvent moins de stress quand même, elle a un salaire qui reste encore supérieur à celui de l'infirmière. Donc,
Les infirmières vaudoises, dernièrement, elles comparaient aussi leur salaire, leur statut au salaire des institutrices. Ouais. Donc, effectivement,
c'est une comparaison qui est très ancienne. Ouais. Pendant très longtemps, elles ont un temps de formation à peu près équivalent, mais leurs conditions restent, malgré tout, encore maintenant, inégales.
Dévalorisées, donc.
Une certaine dévalorisation. Et bon, il y a aussi d'autres choses qui font que ce métier est difficile maintenant. C'est que c'est un métier qui, comment dire, auparavant il était entouré de valeurs, qui étaient des valeurs stables. L'infirmière rencontrait le malade dans des valeurs qui étaient semblables aux siennes un peu. Tandis que maintenant, l'infirmière doit presque faire elle-même son propre système de valeurs. Elle doit faire face à une mobilité des savoirs et une mobilité des valeurs extrêmement importante. Elle doit mobiliser sans cesse, mais en permanence. Elle mobilise ses savoirs, elle mobilise aussi son investissement affectif. Ce qui fait que quand elle se compare à des métiers où on rentre le soir quand même moins fatigué ou moins pompé, elles se disent qu'elles auraient peut-être bien fait de chercher autre chose. Et parfois, elles cherchent autre chose. Nombreuses sont celles qui abandonnent le métier, et c'est la même chose ici. Après 4, 5 ans, 6 ans, et parfois moins. Parce que c'est un métier, je pense, difficile. Et c'est un métier, d'ailleurs, où on ne peut pas éliminer totalement la logique du don. Et on ne peut pas totalement calculer au millimètre son temps. Il y a toujours, dans chacun des services que j'ai visités, il y a toujours une infirmière qui déborde un peu son temps parce qu'il y a un soin, parce qu'il y a une nouvelle entrée, parce qu'il y a toujours des imprévus aussi, c'est ça. L'hôpital, c'est un monde d'imprévus permanent, continu. C'est pas nécessairement la logique du don. Parfois, elles peuvent se faire rembourser leur temps ou elles peuvent le récupérer sous forme de vacances. Mais ce sont quand même des êtres humains qui sont en face d'elles. Alors on a beau faire, c'est impossible de toujours faire l'économie d'une identité, mais certaines se disent, mais je pourrais être à sa place, ou ça pourrait être mon père, ou ça pourrait être mon fils, ou ma fille, ou mon mari, etc. Et c'est un métier où la notion de don a changé, mais elle est là quand même, elle est là comme... non plus comme don dans le futur ou dans un futur paradis, mais c'est une sorte d'échange.
C'est un
rapport humain, on donne beaucoup au patient, en même temps on attend aussi quelque chose du patient, sous une forme ou sous une autre, parce qu'il va mieux, parce qu'il fait des sourires, parce que... de temps en temps, il y a quand même une petite lettre ou un petit cadeau.
Parce que c'est pas une chose.
C'est ça, c'est un métier qui porte sur des relations, sur des êtres humains. Une des principales satisfactions aussi, c'est de découvrir l'autre, de découvrir certaines personnalités, de découvrir des caractères inattendus, des réactions inattendues. Et quand cette passion-là s'émousse trop, souvent l'infirmière ressent une fatigue. Parce qu'elle, et à ce moment-là, elle sent qu'elle serait peut-être mieux ailleurs.
Mais qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années dans le contenu de ce travail pour que, au moins en Europe, elle, d'une manière assez générale, on a vu ça en France, en Angleterre, on le voit ici en Suisse, on se plaint dans cette profession de non-reconnaissance des responsabilités. Est-ce qu'il y a eu un changement dans les responsabilités qu'elles ont, dans les actes, dans les gestes techniques, je ne sais pas, dans le travail lui-même? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ces 10 dernières années, ces 20 dernières années?
Je n'ai pas l'impression que ça ait beaucoup changé. Au contraire, quand on fait l'histoire avec les infirmières ont l'impression que leur rapport au médecin a évolué, mais dans un sens positif. Au sens où elles le regardent moins comme un grand personnage sur son piédestal. Ça arrive parfois qu'elles le tutoient, ou en tout cas les internes ou les stagiaires, souvent, sont des rapports qui sont très décontractés. Ça varie beaucoup selon les unités. Il y a certaines unités qui sont restées à des rapports un peu style ancien, mais disons d'une manière générale, toutes sont d'accord pour dire que, comparé à ce qui était il y a une dizaine ou une vingtaine d'années en arrière, les choses ont très favorablement évolué sous cet angle. Donc c'est autre chose qui a changé. Et c'est probablement ici aussi un besoin d'affirmation de la part des infirmières, de ne pas être considérées uniquement comme celles qui exécutent des ordres, mais c'est la volonté d'être considérée comme celle qui a son domaine propre, dans lequel les médecins n'ont pas à intervenir. Les médecins sont là pour formuler leur diagnostic, pour indiquer la thérapeutique, mais l'application d'un certain nombre de gestes et d'actes, elle le revendique totalement et souverainement. Donc il y a une certaine, il y a une affirmation d'elle-même.
Mais est-ce que les médecins, avec cette spécialisation des médecins, il y a des spécialistes de tout maintenant, hein, donc c'est cette division du travail, est-ce que ils délèguent pas certaines choses aux infirmières pour s'occuper de choses plus importantes eux-mêmes? Est-ce qu'il n'y a pas ce processus-là? Est-ce qu'elles acquièrent...
C'est très difficile.
Pas des choses qu'autrefois faisaient les médecins ou...
C'est très difficile à dire. C'est très difficile à dire. Là, il faudrait vraiment passer d'une unité à l'autre. Parce que les unités dont je m'occupe présentement, ce sont les unités de grands brûlés et les unités de soins intensifs. Là, les médecins sont tellement occupés à d'autres choses, à des soins plus techniques, qu'ils délèguent énormément d'actes aux infirmières. Dans d'autres secteurs, il y a un fait aussi qui est un fait réel, c'est la prolifération des médecins. En France, on estime qu'on a beaucoup trop de médecins. Je ne sais pas exactement quelles sont les estimations en Suisse. Mais disons, plus vous fabriquez de médecins, plus ces médecins vont vouloir aussi occuper un territoire. Donc là, il y a aussi un jeu qui se passe maintenant, qui n'est pas, attention, je tiens à souligner, qui n'est pas uniquement un jeu entre hommes et femmes. Parce qu'il ne faut pas oublier que maintenant, la majorité des élèves dans les facultés de médecine sont des femmes. Donc là, on a une féminisation progressive de tout le champ médical, je dirais, parce que chez les infirmières, il y a bien apparition de quelques hommes, mais on en est à 5%, 6%. Et puis, la tendance ne va pas en se développant aussi fortement qu'elle se développe du côté de la médecine et des autres professions médicales. Donc, d'ici 20-30 ans, si ça continue, on aura un champ médical qui sera largement féminisé. Mais ça ne veut pas dire, et de loin pas, que les rapports entre médecins et infirmières subiront une mutation complète.
Dans ton livre, tu parles beaucoup des infirmières auxiliaires, c'est-à-dire de cette formation, de ce statut d'infirmière un peu au rabais, avec une petite formation et qui a des fonctions subalternes et plus exécutives, un peu de responsabilité, la servante, je ne sais pas, c'est la...
Oui, je ne sais pas s'il faut l'appeler servante.
Essaye de définir ce que c'est au Québec.
Au Québec, c'est différent d'ici. Ouais. Au Québec, et c'est en fait particulier au Québec, dans tout le Canada. Parce que les infirmières auxiliaires, là-bas, qui sont l'équivalent des aides ici, sont formées pendant 2 ans. Donc ce n'est pas une formation d'une année, c'est une formation sur 2 ans. Et ceci a été... acquis à travers différentes luttes, d'ailleurs, entre infirmières et auxiliaires, qui n'est pas nécessaire de retracer ici. Mais disons que c'est un rapport de force particulier dans cet endroit qui a fait que les auxiliaires ont occupé une place un peu particulière du point de vue de leur formation. Il faut dire qu'elles sont apparues à la faveur d'une pénurie de personnel qualifié. Donc on a imaginé mettre sous l'autorité de l'infirmière deux ou trois auxiliaires, et puis comme ça on pouvait faire tourner un département meilleur marché, et puis aussi avec plus rapidement, parce qu'on avait besoin de personnel qualifié. Donc c'est, c'était le fameux travail en équipe qui tend à disparaître maintenant. On a mis au point ce travail en équipe. Ensuite, on s'est chamaillé sur le travail en équipe. Ce travail en équipe a été, passe à travers une crise. Il a à peu près disparu maintenant des hôpitaux du Québec. Et on en revient à un style d'organisation du travail beaucoup plus traditionnel, avec l'infirmière chef qui occupe le centre. Dans certains hôpitaux aussi, à la faveur d'une réduction de la pénurie dans les années, au début des années 80, on a éliminé les infirmières auxiliaires, surtout du côté anglophone, pour introduire un style de soins qu'on appelle soins intégral là-bas, où l'infirmière s'occupe de tout, depuis les soins de chevet les plus élémentaires jusqu'aux soins les plus complexes. Ceci pour essayer, dans les conditions de mobilité assez intenses que connaissent les hôpitaux au Québec et aux États-Unis, de stabiliser le rapport entre infirmières et patients. Ça, c'était ça l'enjeu, en fait, des soins
infirmiers. Pour que le patient ne voit pas défiler devant lui 4 ou 5...
De toute manière, il en voit défiler 4 ou 5, même quand il reste 10 jours. Et l'objectif, c'est d'empêcher qu'il en voit défiler une dizaine, une quinzaine.
C'est ça. Et puis, c'est pour humaniser aussi, non?
C'était l'objectif d'humaniser, de personnaliser un peu le rapport à l'hôpital. Là, avec le soin intégral, lorsqu'un médecin arrive à l'hôpital, il est confié, on peut dire, à une infirmière et à son infirmière de remplacement pendant ses congés. Et c'est l'infirmière qui établit son plan de soins, c'est l'infirmière qui donne les informations à la famille, qui fait les contacts avec le médecin, bref, qui s'occupe de tout ce qui concerne son patient. Et ceci, d'ailleurs, est très satisfaisant pour l'infirmière, parce qu'elle est autonome, elle ne dépend plus directement de l'infirmière chef. L'infirmière chef reste responsable, si tu veux, mais l'infirmière, elle fait son travail selon un certain nombre de principes qui sont arrêtés dans l'unité, et puis elle applique ces principes qui sont les principes du soin intégral, mais l'infirmière chef a perdu beaucoup de ses prérogatives. Et ça, en général, ça encourage ou ça valorise l'infirmière.
Donc là, pour conclure, on pourrait revenir sur cette idée que bon, il y a peu de professions qui sont aussi marquées du point de vue de l'histoire des femmes, de la condition, de ce qu'on a demandé traditionnellement aux femmes, c'est-à-dire de donner sans compter, c'est-à-dire bon, c'est la profession de mère, c'est le statut. Hein. C'est le maternage, mais socialisé. Donc, c'est une profession typiquement féminine. Qu'est-ce que tu as trouvé de ce point de vue-là dans tes recherches? Est-ce que tu as rencontré des infirmières? Est-ce que tu as recueilli des témoignages? Ou bien, comment tu as fait pour arriver à parler de ce contenu, de ce travail qui est vraiment... une des professions typiquement féminines, non, qui est vraiment symbolise bien l'histoire du travail des femmes.
Ouais. Ce qui m'a le plus frappé, moi, c'est que c'est une profession qui se déroule essentiellement dans la notion de don et qui s'adresse essentiellement à des femmes. Et en fait, en y réfléchissant, on s'aperçoit que la femme ne vit pas seulement dans une logique du don à l'hôpital, ou ne vivait pas dans une logique de don à l'hôpital, mais en fait elle vit très souvent dans sa famille dans une logique de don, où en fait elle donne à ses enfants, à son mari, etc. Et puis il y a une série d'échanges aussi qui se produisent dans la famille. Donc on peut considérer la famille, par exemple, comme un système de don, parfois inégal, mais c'est un système de don. un système de dons qui n'est pas totalement désintéressé. Parfois, il y a aussi des intérêts. Chacun y trouve sa partie. Et d'ailleurs, quand on examine les très très anciens systèmes de dons, pas les systèmes de dons chrétiens, ceux qui les ont précédés, les systèmes des petites sociétés orales, eh bien, on voit très rapidement que le don n'est pas totalement gratuit, que c'est souvent quand on donne quelque chose, on le donne à quelqu'un qui va le donner à quelqu'un d'autre, et finalement on s'attend à ce que ça nous revienne sous une forme ou sous une autre. Et c'est ce qui se passe maintenant avec les femmes et leur affirmation. Dans la mesure où elles ne comptent plus sur un don-sacrifice dans l'au-delà, elles s'attendent, parce qu'elles payent pas mal de leur personne, elles s'attendent à des retours. Alors ce retour, il peut être sous la forme de reconnaissance par la hiérarchie médicale, par exemple, ou la hiérarchie hospitalière, de reconnaissance salariale, de reconnaissance en temps de travail, de reconnaissance en conditions de travail, de reconnaissance sociale aussi générale, que leur profession soit mise sur la place publique, qu'elle existe, etc. Je pense qu'il y a un besoin très très clair de ce côté-là. Et ça ne veut pas dire que le don n'existe plus, mais précisément, il existe, mais sans sa forme, on peut dire, religieuse, transcendantale. Et on s'attend. Le don forme un cercle, il forme un retour. Et si les retours n'existent pas, on abandonne le cercle du don. Et si actuellement les écoles d'infirmières se vident un peu, il faudra bien qu'avec des mesures appropriées, l'État, les assurances parviennent à tarir un peu cette désertion.
Vous écoutez Ondes de Femmes sur Radio Zone. Vous venez d'entendre une interview de André Petitat, auteur du livre Les infirmières de la vocation à la profession, livre que vous pouvez trouver à la librairie du boulevard de Genève. Oh,
métal n'est pas notre art. Je suis une illusionnée, mais où the brain of any one man, and he thinks this, me, will?